Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. L'archevêque d'Addis Abeba a adressé un message aux fidèles à l'occasion de l'Nkutatash, le nouvel an éthiopien célébré le 11 septembre. On en parle tout à l'heure en actualité de l'Église après les différentes audiences du pape. Burundi, 2 morts dans une attaque à la grenade dans la capitale. Nigeria, 1 inspecteur de police tué par des hommes armés. Les détails dans cette édition de notre programme que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le pape a reçu lundi en audience privée le cardinal Luis Antonio Tagle, le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, suivi du cardinal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, archevêque de Huancayo au Pérou, puis Mgr Luciano Suriani, nonce apostolique en Serbie, Mgr Michael Francis Crotti, nonce apostolique au Burkina Faso et au Niger, et enfin Monsieur David Oren, ambassadeur d'Israël. En Éthiopie, le cardinal Berane Jesus Demeruis Surafiel, président de la conférence épiscopale éthiopienne, a une nouvelle fois renouvelé son appel à œuvrer pour la paix dans le pays où le violent conflit qui a débuté en novembre dernier dans les Tigrés se poursuit. Des détails avec Françoise Niamien.
Dans un message publié à l'occasion de l'Nkutatash, le nouvel an éthiopien célébré le 11 septembre, l'archevêque d'Addis Abeba a exhorté les fidèles à promouvoir le dialogue et la réconciliation et à être un instrument de paix qui, a-t-il dit, est un fruit à aimer, car Dieu déteste l'inimitié. Nous sommes tous appelés à participer à ces processus qui transforment les ténèbres en lumière, à respecter le don de la vie et à valoriser la fraternité, poursuit le message. Rappelant qu'au cours de son histoire, l'Éthiopie a connu plusieurs guerres, le cardinal Surafiel souligne que les évêques ressentent la douleur et les blessures du peuple et de ses familles et ont toujours insisté sur l'importance du dialogue pour la réconciliation. L'Église continue de prier pour que toute la nation soit un instrument de paix, poursuit le message, exprimant sa gratitude à ceux qui s'engagent dans ce sens, mais aussi des prières pour les instigateurs de la haine, afin que Dieu leur donne un cœur nouveau, capable d'aimer. Le cardinal Surafiel a également invité les fidèles à continuer à prier et à soutenir les personnes déplacées par la guerre au Tigré en leur apportant une aide en nature ou en argent. Le conflit en cours dans la région était au centre d'une nouvelle visite d'une délégation de l'AMECEA, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique de l'Est, à l'ECBC ces derniers jours. Ce fut l'occasion de réaffirmer la proximité et la solidarité des évêques de la Corne de l'Afrique avec le peuple et l'Église éthiopienne, comme l'a expliqué le père Paul Mungatia Igueta, coordinateur du département pour la promotion du développement humain intégral d'AMECEA, qui faisait partie de la délégation.
Évangélisation, inégalité, pauvreté, développement, racisme, cultes ancestraux, tels sont les défis auxquels est confrontée l'Église catholique en Afrique du Sud. Mgr Buti Tagale, archevêque de Johannesburg, s'est exprimé le 16 septembre lors du cours d'orientation pour les nouveaux missionnaires. L'événement a été promu par la Conférence nationale des évêques dans la ville de Benoni. Il y a beaucoup de souffrance parmi les peuples d'Afrique du Sud, ce qui se traduit par une perte d'espoir, a déclaré le prélat dans son discours, évoquant également le drame des jeunes victimes du chômage. Beaucoup de jeunes, a-t-il dit, dorment dans la rue, perdent leur dignité, font la manche. D'où l'exhortation aux nouveaux missionnaires à s'engager à renforcer le rôle des laïcs dans la société. Motivés par la foi, ils peuvent en effet provoquer des grands changements. En Côte d'Ivoire, certaines paroisses se sont proposées comme centres de vaccination contre le Covid-19. C'est le cas de la paroisse Saint-Jacques de Cocody des Deux Plateaux dans l'archidiocèse d'Abidjan.
Le nombre des cas liés au Covid-19 ne cesse d'augmenter en Côte d'Ivoire et les décès également avec une célérité ces dernières semaines. Face à cette situation inquiétante, des sites de vaccination ont été ouverts sur l'étendue du territoire national ivoirien. À la paroisse Saint-Jacques de Cocody, les deux plateaux dont l'archidiocèse d'Abidjan, c'est le curé, le père Augustin Obro, lui-même qui en a fait la demande.
Ici, la population est très très vieille. Ce sont des anciens cadres qui sont là et on nous a dit que c'est cette population-là qui est beaucoup touché. Organiser cela sur une paroisse devient plus simple et c'est plus facile. Les gens se déplacent facilement et se retrouvent comme en famille.
Assis dans des chaises et à l'abri du soleil, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains sites de vaccination, les fidèles à tout de rôle dans la discipline se soumettent à cet exercice.
On est vraiment dans un cadre très accueillant qui facilite en fait la prise en charge des personnes demandeuses de vaccins. Je pense que c'est une opération à répéter.
Pfizer, c'est le nom du vaccin qui est administré. Il se fait en 2 doses avec un intervalle de 3 semaines. Docteur Yolande Assémian du district sanitaire Cocody-Bergerville conduit l'équipe. Pour elle, ce vaccin est sûr et invite tout le monde à se faire vacciner. Le père Augustin Bro, supervisant lui-même cette opération, en a profité pour lancer un appel à toutes les paroisses pour lui emboîter le pas.
Nous avons besoin de nos fidèles vivants. Nous ne voulons pas célébrer des messes de requiem à tour de bras.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Et dimanche 12 septembre 2021, les sœurs de Notre-Dame du Cénacle dans le diocèse d'Anéo au Togo ont lancé dans leur centre de spiritualité les activités marquant les jubilés d'argent de leur arrivée au Togo. Sœur Simone Daniels nous présente le charisme et la manière dont elle le déploie au Togo.
Notre vocation, c'est de faire connaître et aimer Jésus-Christ par le moyen de l'éducation de la foi, les retraites, les récollections, connaître la parole de Dieu, apprendre à découvrir comment Dieu nous parle. Quand nous sommes arrivés au Togo, nous avons tout de suite cherché à réaliser ce pourquoi on était appelés auprès des jeunes de la paroisse, en collaboration avec le diocèse, et puis aussi au-delà, comme nous avons pu organiser pour les jeunes, pour des adultes, quelques retraites au début. Et comme nous étions dans une petite maison, nous sommes allés donner des retraites, par exemple à Togoville, ou à Kepé, ou à Dzobégan. Voilà.
Elles sont au total 8 religieuses aujourd'hui dans cette communauté du Cénacle à Vogan pour déployer ce charisme de Sainte Thérèse Coudert, leur fondatrice, en vue d'une spiritualité chrétienne approfondie. Beaucoup de témoignages l'attestent, comme celui de M. Louis Beblenou, agroéconomiste, que nous écoutons.
J'arrive à rentrer en silence, à retrouver le Seigneur en moi, après quelques exercices que j'ai passés avec elle à travers les retraites, certains exercices spécifiques, la prière à partir de la parole de Dieu, la relecture de la journée, et surtout le silence.
Gustave Wam, Dapan pour Radio Vatican.
Direction Cameroun, rejoignons notre correspondante locale qui nous fait part de la célébration des vœux d'une religieuse samedi dernier dans la congrégation des sœurs Ursulines de Jésus à Ngaoudéré.
La jeune prophète Amina Oudine Kevin, après des années de discernement, a dit oui au Seigneur en présence des membres de ses familles naturelles et religieuses, ainsi que de toute la communauté chrétienne rassemblée pour l'événement. Pour le vicaire général du diocèse de Ngaoundéré, Mgr Robert Osaleto Dingoto, cet engagement à la vie religieuse est d'une grande portée ecclésiale.
L'événement que nous célébrons est l'aboutissement d'une bonne éducation familiale enracinée dans la foi au Christ et d'un encadrement permanent de toute la communauté chrétienne et des responsables de la congrégation pour que la vocation de Kevin arrive à maturité.
Il ne reste plus qu'à prier et à continuer de soutenir cette jeune vocation religieuse afin qu'elle saisisse la gravité, la beauté et la grandeur de ce qu'elle fait, ou plutôt de ce que Dieu fait en elle, pour emprunter les propos de Mgr Rosalito. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
Toujours au sujet de vœux, le 11 septembre 2021, dans l'archidiocèse de Kinshasa, précisément à la paroisse Saint-Sacrement, lors d'une messe précisée par Mgr Edouard Kisonga, évêque auxiliaire de Kinshasa, deux jeunes sœurs se sont consacrées définitivement au Seigneur par les vœux perpétuels dans la congrégation des sœurs adoratrices du Très-Saint-Sacrement. L'une d'elles, sœur Gloria Nzitusu, a exprimé sa joie et remercié tous ceux qui ont contribué à la maturation de leur cheminement vocationnel.
Nous avons vraiment une très grande joie. Nous ne pouvons pas l'exprimer avec nos mots parce que l'exprimer avec nos mots paraîtrait insuffisant. Alors notre joie est plus intérieure. Nous nous confions à Dieu qui nous a consacrés à lui. Et ce jour, c'est aussi un jour où nous remercions nos sœurs qui nous ont accompagnés durant notre cheminement formatif. Il y a aussi beaucoup de paroissiens qui nous ont rejoint pour célébrer ensemble ces jours d'action des grâces. C'est vraiment une très grande joie pour nous, comme je viens de le dire tantôt.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La police nigériane a annoncé lundi la mort d'un inspecteur de police dans une embuscade tendue par des hommes armés dans le sud-est du Nigeria, où les attaques ciblées contre la police ont fait plusieurs dizaines de morts depuis les débuts de l'année. Françoise Niamien nous relate les faits.
Selon le porte-parole de la police locale, M. Ikenga Toshuku, des hommes armés ont ouvert le feu dimanche sur une patrouille de police dans la ville commerciale d'Onisha, dans l'état d'Anambra. Malheureusement, un inspecteur de police a payé le prix suprême au cours de l'échange de tirs, a-t-il souligné, ajoutant que d'autres officiers de police ont été blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités nigériennes attribuent généralement ce genre d'attaque fréquente dans le sud-est au mouvement indépendantiste Biafra, IPOB, issu de l'ethnie Igbo. L'IPOB a nié la responsabilité de sa branche militaire dans ces violences, mais les tensions se sont multipliées dans la région où plus de 100 policiers ont été tués cette année, selon les autorités. Dans l'état voisin d'Enugu, des hommes armés ont également attaqué un bureau électoral et incendié des parties du bâtiment. Des responsables ont toutefois déclaré que l'incendie avait été éteint avant que le matériel et des équipements électoraux importants ne soient endommagés. Des dizaines de policiers et membres de personnel de sécurité ont été tués depuis le début de l'année dans des attaques dans le sud-est du Nigeria.
Rappelons que le Nigeria a récemment intensifié la répression contre les indépendantistes, notamment en poursuivant en justice leurs dirigeants. Deux personnes ont été tuées et 8 autres blessées dimanche soir par l'explosion d'une grenade dans un bar de la capitale burundaise, a annoncé une source policière. Cette attaque intervient moins de 2 jours après des tirs de mortier revendiqués par le groupe rebelle Red Tabara sur l'aéroport de la capitale économique Bujumbura qui n'avait pas fait de dégâts. La présidence de Djibouti avait annoncé dimanche que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, âgé de 73 ans et au pouvoir de cet État de la Corne d'Afrique depuis 1999, était rentré au pays après des rumeurs 7 semaines sur son état de santé. Ces rumeurs ont commencé à circuler lundi dernier sur les réseaux sociaux, affirmant que M. Guelleh était hospitalisé à Paris. Mardi, le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement étaient intervenus publiquement pour les démentir, affirmant qu'ils prenaient du repos après un surménage. Le président de la République a regagné la capitale ce dimanche, en fin d'après-midi à l'issue d'un séjour privé en France, a déclaré la présidence dans un communiqué.
Radio Vatican, Français-Afrique. Donatien Niembo.
La cérémonie d'inhumation de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika a commencé dimanche en présence de son successeur Abdelmadjid Tebboune et d'autres personnalités. La bretelle d'autoroute d'accès au cimetière a été dégagée pour permettre au convoi officiel d'arriver au cimetière d'El Alia à Alger, où sont enterrés tous les anciens présidents et les héros de la guerre d'indépendance algérienne.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Poursuivons notre programme avec le magazine sur la santé. Marie-Josée Mwando, Boaboualo.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Le magazine concerne aujourd'hui l'engagement conjoint de l'Organisation mondiale de la santé, un consortium sud-africain et les partenaires du mécanisme COVAX en vue de créer un centre de transfert de technologies dans le but de permettre d'accroître et de porter à une plus grande échelle la production de vaccins en Afrique. Cette initiative historique constitue une avancée majeure dans l'effort international visant à renforcer les capacités de développement et de production des vaccins qui mettront l'Afrique sur la voie de l'autodétermination, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors du lancement de l'initiative en juin. Cependant, la fabrication des vaccins à base de l'acide ribonucléique messager est complexe et il faut franchir de nombreuses étapes avant que des vaccins à ARN messager sans danger et efficaces soient fabriqués sur le continent africain. Le docteur Bartholomé Diki Akanmori, conseiller régional pour la recherche et la régulation vaccinale pour le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, souligne que le centre de transfert de technologies en Afrique du Sud montrera aux fabricants africains comment fabriquer des vaccins à ARN messager comme les vaccins anti-COVID-19 Pfizer et Moderna. Les fabricants étrangers partageront les techniques avec les institutions locales et l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que ses partenaires apporteront le savoir-faire et le contrôle de la qualité et faciliteront également l'obtention des licences nécessaires. Il y aura un centre de formation disposant de tous les équipements nécessaires pour que les fabricants africains apprennent. Les fabricants paieront pour que leur personnel reçoive la formation, laquelle doit être achevée avant que ces personnels puissent commencer la production. Plusieurs partenaires se sont déjà engagés à participer, notamment l'Institut de produits biologiques et de vaccins d'Afrique australe, le Conseil sud-africain de recherche médicale et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Ces centres existent partout dans le monde. Par exemple, des scientifiques de l'Université d'Oxford ont partagé leurs techniques avec AstraZeneca, qui a fabriqué par la suite les vaccins anti-COVID-19 AstraZeneca. Ces centres montrent aux producteurs les formules nécessaires pour fabriquer des vaccins de qualité, sûrs et efficaces. Les vaccins fabriqués actuellement en Afrique, comme celui contre la fièvre jaune ou le tétanos, utilisent une technologie simple dans laquelle les scientifiques prennent les bactéries, cultivent la toxine des bactéries et la rend incapable d'agir, indique le docteur Bartholomé Diki Akanmori. De nouvelles technologies sont nécessaires pour fabriquer des vaccins à ARN messager. Il s'agit d'un processus beaucoup plus complexe et il n'y a aucune marge d'erreur. Ainsi, le transfert de connaissances appropriées est absolument crucial. Le plan à long terme est l'autosuffisance pour un avenir où l'Afrique fabrique suffisamment de vaccins pour sa propre population. Pour le moment, l'Afrique importe environ 90% de ses vaccins. Le centre de transfert de technologie contribuera à changer cette tendance et permettra aux fabricants africains de passer à des niveaux plus avancés de production où ils peuvent fabriquer des vaccins à ARN messager du début à la fin sans soutien extérieur. Plusieurs autres vaccins utilisent la même technologie à ARN messager comme les vaccins contre Ebola, la fièvre de Lassa et Marbourg, et par la suite, cette technologie à ARN messager pourrait même être utilisée pour produire des vaccins contre le VIH-Sida ou la tuberculose. Le centre dispose d'un organisme de recherche et de développement qui peut identifier de nouvelles façons d'utiliser cette technologie. Rappelons que l'acide ribonucléique messager est une molécule organique qui joue un rôle important dans les processus biologiques. Il permet aux cellules de fabriquer des protéines indispensables à la vie. Il est produit par copie d'une partie de l'ADN qui contient toute l'information de la cellule. Les ARN messagers sont traduits en protéines en passant dans une structure appelée ribosome. Le ribosome lit l'ARN messager et assemble les acides aminés qui vont former la molécule de protéine.
Rubrique technologie, c'est avec Françoise Niamien.
Commençons notre rubrique sur la technologie par l'Australie méridionale qui a décidé de lancer une application qui surveille les mises en quarantaine des personnes entrant sur son territoire. Voyons comment est utilisée cette application sur le téléphone mobile pour faire respecter les mises en quarantaine fixées à 14 jours. La police envoie des SMS dans la journée et la personne placée à l'isolement doit se prendre en photo dans le lieu défini pour sa quarantaine. Concrètement, expliquent les initiateurs, cette application active la géolocalisation, mais elle y ajoute une touche de biométrie puisque les utilisateurs placés en quarantaine doivent prouver qu'ils sont bien en isolement à l'endroit imposé en envoyant un selfie. Dans la fiche de l'application, on découvre ainsi que chaque utilisateur subit en direct des contrôles multiples et aléatoires de l'emplacement pour confirmer qu'il est à l'adresse de quarantaine enregistrée. Si la police a un doute par rapport au lieu de quarantaine ou s'il n'y a pas de réponse, elle se rend sur place. Sans surprise, cette application provoque un tollé et une association pour la défense des libertés individuelles a demandé un moratoire sur son utilisation. Citée par Viguadiane, cette association pointe du doigt l'absence de législation pour les applications de ce type et les difficultés pour évaluer les problèmes de confidentialité de la durée de conservation des données des personnes avec lesquelles elles sont partagées et de la manière dont elles sont stockées. Du côté des autorités, le Premier ministre de l'État, Stephen Marshall, assure que les informations recueillies par l'application resteront confidentielles et qu'elles ne sont pas stockées. Nous l'utilisons simplement pour vérifier que les gens sont bien à l'endroit qu'ils ont indiqué pendant la quarantaine, a-t-il déclaré. Une base de données de plusieurs gigaoctets a été découverte sur le web exposant des millions d'informations personnelles en provenant d'objets connectés et appareils médicaux. L'équipe menée par le chercheur en cybersécurité Jeremy Fowler a déterminé que la base de données mise en ligne dont la moindre protection provient de l'entreprise new-yorkaise JetElf. Peut-on lire sur le site de Futura Tech. La firme propose un service pour synchroniser les données de santé en provenance de différents appareils connectés. Les informations exposées concernent des utilisateurs situés à travers le monde. Contacté par l'équipe de website Planet, JetElf a confirmé être propriétaire de la base de données et a sécurisé l'accès dans la journée. Toutefois, les chercheurs n'ont pas pu déterminer depuis quand les informations étaient exposées, ni si quelqu'un d'autre y a accédé. Cela souligne encore une fois à quel point il faut être vigilant avec les objets connectés et toutes les données qu'elles collectent. Parlons à présent de cette application Weaker, créée par Bienvenue, jeune développeur congolais, après 8 mois de travail. Cette application qui facilite l'accès rapide aux soins en facilitant le paiement des soins de santé à travers l'épargne et les crédits. L'application serait déjà utilisée par plusieurs habitants de la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'application Weaker, l'on a accès aux hôpitaux et pharmacies disponibles pour payer facilement ses soins de santé. Dans notre système de soins avec les malades que nous soignons, nous voyons qu'il y a vraiment des difficultés pour l'accès aux soins pour la population. Et avec cette idée, en tout cas, nous avons été intéressés parce que nous sommes là pour prendre en charge et soigner la population, a expliqué Dr Guilain Vouama. Seule difficulté, pour pouvoir utiliser l'application, il faudra disposer d'un smartphone avec accès à Internet.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site Internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi en compagnie de Donatien Nyembo. Au revoir.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh, oh. Accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi.